Savez-vous que nous avons un invité de marque aujourd'hui ? Il s'appelle Jésus de Nazareth, le héros qui sauve, celui qui a tout fait pour que nous soyons en sa présence, dans la présence de Dieu, consolés, délivrés et rendus capables d'accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les accomplissions, justement. Et c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Or, si nous sommes là cet après-midi, eh bien, c'est pour que nous puissions voir ensemble ce héros glorieux qui a été chanté tout à l'heure dans un des cantiques d'introduction et qui se rapporte au prophète Sophonie, chapitre 3, verset 17, où il nous est dit « L'Éternel est au milieu de nous comme un héros qui sauve ». Eh bien, nous allons parler de ce héros, c'est-à-dire de celui qui a accompli un acte extraordinaire ou des actes extraordinaires. Comme dit l'Écriture concernant la personne de Jésus, il fait tout à merveille. Eh bien, cet après-midi, par son esprit, le Seigneur est au milieu de nous. Et ce qu'il veut, eh bien, c'est encore agir en faisant tout à merveille dans la vie de chacun d'entre nous. Cet appel que Dieu veut nous adresser touche non pas notre intellect, parce que des discoureurs dans ce monde, il y en a beaucoup, et des gens bien plus qualifiés que ce que nous pouvons être les uns ou les autres dans cet humble contexte. Mais il y a aussi au-dessus de cela des œuvres glorieuses que Dieu lui-même accomplit. Est-ce que nous voulons voir notre héros accomplir des œuvres ? Eh bien, nous allons le voir au travers de quelqu'un qui, dans les Écritures, est comme un symbole, un type, nous allons l'expliquer dans quelques instants, de celui qui est le Fils éternel de Dieu. Pourquoi Fils éternel ? L'Écriture, dans l'Évangile de Jean, dans le prologue de l'Évangile de Jean, nous dit ceci, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Elle était au commencement, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière est venue chez les siens, c'est-à-dire les juifs, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et le terme grec c'est lambano, c'est-à-dire saisir, empoigner, embrasser, prendre en main, accaparé même, et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels, enfants, ne sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et cette parole qui a créé le monde a été faite chair. Elle est venue parmi nous, habiter, tabernaclée, dit le texte, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Ah, voilà un héros. Nous avons contemplé sa gloire, telle la gloire du Fils unique venu du Père. Merveilleux. Et tout cela est un résumé extraordinaire de celui qui depuis l'éternité, avant que le temps existe, avant que l'univers soit créé, était en Dieu, parfaitement Dieu et parfaitement, je dirais, réjouissant le cœur de Dieu. Et puis un jour, dans le plan éternel de Dieu, Dieu a voulu sauver cette humanité qui s'est perdue loin de lui. Et il a crié, « Mais qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Et dans les paroles d'Ésaïe le prophète, au chapitre 6, le Seigneur répond, « Me voici, envoie-moi. » Et ailleurs, il dira, avant même que d'être incarné, « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et la volonté de Dieu, c'est qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité par la bonne nouvelle. En grec, ça se dit « euangelion », qui a fait le mot « évangile », une bonne nouvelle, un bon message. Eh bien, cet après-midi, c'est ce que nous voulons partager avec vous qui êtes là, qui êtes des amis, qui êtes des bien-aimés, Parce que Dieu vous aime. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'il a donné pour cela son Fils unique. Celui qui était dans la plénitude de Dieu depuis l'éternité, de tout temps donc. Il n'y a pas de temps plutôt. Avant tout temps. Et qui s'est fait homme. Qui est venu prendre notre nature humaine pour venir nous révéler le Père et pour venir nous sauver en prenant notre place dans le jugement, le juste jugement de Dieu, qui devait atteindre tous les hommes. Car l'Écriture nous dit que tous les hommes, tous sans exception, ont péché, et à cause de cela, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont aussi tous justifiés, gratuitement, par l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Cet après-midi, celui qui est le héros qui sauve, et nous allons voir des textes plus précis, eh bien, c'est Jésus de Nazareth, le Fils unique de Dieu, qui est venu donner sa vie et qui nous a sauvés en livrant un combat extraordinaire qui nous invite maintenant à le suivre, à nous lever après lui, pour pouvoir également entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Êtes-vous prêt à cela? Ah, c'est une grande conquête. C'est une œuvre glorieuse que le Seigneur nous demande en cet après-midi. Il ne nous appelle pas à être des auditeurs passifs, mais il nous appelle à être saisis par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions nous lever, que nous puissions aller avec les armes que le Seigneur met à notre disposition et que nous le suivions pas à pas parce que lui a remporté déjà la victoire et il nous la donne. Alors je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi, quel qu'il soit, quel que soit son passé, quel que soit son présent dans les souffrances, la difficulté, le rejet, le découragement, prends courage. Lève-toi, il t'appelle. C'est cette parole qui a été dite à un homme qui était aveugle, Bartimée, et Jésus passait et l'ayant entendu qui criait vers lui, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Alors les gens voulaient, il a réagi, et les gens voulaient le faire taire. Et Jésus a dit, « Non, 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 appelez-le, appelez-le. » Ils appelèrent donc l'aveugle. Qui, jetant son manteau, sa vieille harde, c'est son vieux manteau constellé de trous, n'est-ce pas, puisque ça lui servait de poncho, il était assis dessus, ça lui servait de manteau, ça lui servait d'imperméable, ça lui servait de coupe-vent, ça lui servait de parasol. Et là, assis par terre sur ce vieux manteau, il a dit ça, c'est fini. Maintenant, je jette mon vieux vêtement, je jette ma vieille condition et je me lève pour aller vers Jésus. Fantastique, n'est-ce pas? Alors, quand il est arrivé au pied de Jésus, ne vous inquiétez pas, on ne va pas prêcher là-dessus, mais quand il est arrivé au pied de Jésus, et Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il y a une question. Elle nous est posée cet après-midi. Parce que il y a tout à l'heure, on va le voir, des décisions à prendre, personnellement. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, mon maître. Rabbi, ça veut dire maître, celui qui enseigne. Et le I de Rabouni, ça veut dire, c'est possessif, c'est mon maître. Il se l'accapare et dit, oui, tu es à moi. Rabouni, que je recouvre la vue, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant même, il recouvra la vue. Et est-ce qu'il est retourné s'asseoir sur son vieux manteau? Non. Il suivit Jésus dans le chemin. Eh bien, chers amis, lorsque nous suivons Jésus, nous allons voir par le texte qui va être maintenant notre lecture que nous avons la victoire et surtout, il ne faut pas laisser d'espace entre celui qui nous précède et qui est vainqueur et celui donc que nous suivons. Et nous-mêmes. Donc, ma lecture va se trouver dans le premier livre de Samuel, c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 14, les versets 1 à 23. C'est une longue lecture, mais nous ne prendrons que quelques éléments, parce que le temps nous manquerait évidemment pour aller plus loin. Donc, 1 Samuel 14. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron. Et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitoub, et on devrait dire exactement, frère d'Ichabod, fils de Phiné, fils d'Eli, sacrificateur de l'Éternel, en voilà des titres, Asilo portait l'éphod, et le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsets et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmach, et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » « Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez, jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. » Ils se montrèrent, tous deux, au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Ah, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Ils se moquaient. Et les gens du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes, « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta, en s'aidant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Geba de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Alors Saül dit à Achija, fais approcher, alors c'est l'éphod, dans le vrai sens du texte original, et non pas l'arche, fais approcher l'éphod de Dieu, car en ce temps, l'éphod de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant, et Saül dit au sacrificateur, retire ta main. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés. Et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans les montagnes d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea au-delà de Beth-Aven. C'est un texte de l'Ancien Testament, c'est-à-dire qui était une ombre des choses qui devaient arriver. L'Écriture nous dit que ces choses de l'Ancien Testament, aussi bien au travers des hommes qu'au travers des faits historiques, sont des textes pédagogiques pour nous amener à connaître Christ. Toute la Bible est christocentrique, c'est-à-dire que Christ en est le centre. De la Genèse à l'Apocalypse, partout, il est question du Fils éternel de Dieu. D'une manière ou d'une autre, que ça soit sous un aspect complètement ouvert, libre, ou que ça soit dans un aspect symbolique, ou même dans certains textes où on le trouve en filigrane dans les Écritures. Mais le Christ, le Fils éternel de Dieu, celui qui est le Messie, celui qui est Jésus-Christ, qui est à la base de la création de l'univers, se retrouve partout comme étant la source de notre salut, l'accomplissement de notre salut et le but même de notre salut pour connaître celui qui est le véritable. Et comme dit l'apôtre Jean, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est bon de savoir qu'on est dans la vérité. L'Écriture nous dit, et c'est Jésus qui parle, « Ta parole est la vérité » dans Jean 17, 17. « Ta parole est la vérité ». Nous avons dans ce monde toutes sortes de discours que l'on entend tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des gens bien capables, très intelligents, ayant fait beaucoup d'études, qui sont capables de toucher les uns ou les autres sous différents aspects. Mais la réalité, c'est que souvent ces discours ne conduisent qu'à une philosophie humaine, à une réalité, parce qu'il y a une réalité, qui est le fait que l'homme doit se sauver par lui-même et qu'il est très capable de le faire. Ça s'appelle l'humanisme. Il y a une autre réalité que j'ai entendue par des gens qui sortaient juste du séminaire qui était en face d'une des églises où je me trouvais autrefois. Et nous avions une réunion de jeunesse. Il y avait, je dirais, une vingtaine de jeunes qui se préparaient à entrer, qui venaient là pour partager quelques moments de la parole de Dieu. Mais en même temps, j'attendais sur la porte. Et juste en face, au grand séminaire qui était là, il y a un groupe de jeunes qui sortaient et qui sont venus voir ce que nous faisions. C'était une ancienne église catholique qui avait été vendue. Autrefois, c'était une remise de grains, d'un dépôt pour ceci, pour cela. Il y a eu des pommes de terre là-dedans. Et puis, ça a été restauré lorsque l'église évangélique s'est installée dans ce lieu. Nous en avons fait de nouveau un lieu de culte. Et comme la façade était classée monument historique, les jeunes qui étaient là se demandaient qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette église-là. Bon. Et ils sont venus me voir et me disent « Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes le pasteur ?» Je dis « Oui ». Et puis, après avoir échangé quelques mots, je dis « Mais et vous? Qu'est-ce que vous venez d'apprendre là dans le séminaire ?» Qui est juste en face. Vous sortez d'un cours, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez appris ? Que tous sont sauvés, que tous les hommes sont sauvés, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils soient. Je lui dis, pourquoi pas Judas ? Ah, mais si, monsieur, Judas va être sauvé. Oh, je lui dis, tant qu'à faire, pourquoi pas le diable lui-même ? Mais si, monsieur, même le diable sera sauvé. Dieu est tellement bon. Cela s'appelle l'universalisme. C'est une erreur majeure, car s'il est vrai, et c'est vrai, que Dieu a donné son Fils pour la totalité de cette humanité, l'Écriture nous dit que c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Il y a la nécessité de croire, il y a la nécessité de prendre position, il y a la nécessité de s'engager à quelque chose qui est une marche derrière celui qui est notre leader, c'est Jésus-Christ. De marcher avec lui et pour lui et d'être dans sa victoire. Et je voudrais vous dire qu'un grand héros s'est levé dans notre humanité, le Fils éternel de Dieu, pour que nous puissions être sauvés. Mais ça ne se fait pas automatiquement pour tous les hommes et toutes les femmes de cette humanité, mais c'est uniquement pour ceux et celles qui vont recevoir, comme je l'ai cité tout à l'heure, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole faite chair, la personne de Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, engendré de Dieu, pour pouvoir être en communion avec notre Père. Il ne s'agit pas de réciter seulement quelques prières apprises par cœur et réciter sans qu'on pense aux mots que l'on prononce. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, etc. Prière qui s'appelle dans l'Écriture la prière dominicale, c'est-à-dire la prière du Seigneur, dominé signifiant Seigneur. Eh bien, cette parole, elle est mot pour mot un mode de vie dans lequel nous entrons. Mais pour faire appel à Dieu qui est notre Père, il faut que nous soyons devenus ses fils et ses filles. Or, on ne peut le devenir que par la foi dans le Fils unique de Dieu. Et alors, étant identifié par la foi en Jésus-Christ, comme Christ est le Fils de Dieu, je deviens fils de Dieu. Amen. Vous devenez fils et filles de Dieu, et cela uniquement, non pas par des œuvres humaines que nous pourrions accomplir, car l'Écriture nous dit encore, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est un don gratuit, la vie éternelle que le Seigneur nous donne. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Alors, dans ce livre, dans ce texte que nous venons de lire de l'Ancien Testament, il y a une image avec celui qui est le don de Dieu à cette humanité. J'ai cité tout à l'heure Jean 3,16 qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Or, ce Jonathan dont il est question ici, qui est un fils de Saül, ce Jonathan a une signification. En effet, en hébreu, Yehonathan signifie le don de Dieu. Yeho, Yehovah, Yahvé, c'est l'éternel, don de l'éternel. Et Nathan, c'est l'éternel. Donc, il est le don de l'éternel, ou on peut le traduire, l'éternel a donné. Et il est celui qui est venu du Père afin de nous révéler le Père et de nous sauver de nos péchés. Ah, vous allez dire, tiens, voilà un mot particulier, péché. Qu'est-ce donc que le péché ? Eh bien, le péché, c'est tout ce qui passe à côté du but glorieux que le Seigneur avait voulu pour notre humanité. En grec, amartia, amartia signifie manquer le but, passer à côté, se fourvoyer dans un faux chemin, s'égarer dans une forêt. Et en hébreu, c'est « chata ». On pourrait le lire « kata ». Ah oui, le péché, c'est la kata. C'est une réalité. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, notre Jonathan, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, ce Jonathan, qui était fils de Saül, a pris d'un seul coup conscience qu'il y avait une œuvre à faire, comme dans l'éternité, le Fils éternel de Dieu a pu dire « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Que veux-tu que je fasse ? Me voici, envoie-moi, dira le prophète Ésaïe au chapitre 6. » Après avoir vu la gloire de Dieu, après avoir contemplé la gloire divine, la sainteté de Dieu, il se rend compte d'un seul coup que il est un pécheur. Malheur à moi, dit-il, parce que j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres souillées, et je suis moi-même un homme aux lèvres souillées. Et Dieu va prendre, enfin un ange va prendre un tison sur un autel qui était là, va le passer sur les lèvres du prophète. C'est une image, c'est un comment dire, une vision spirituelle, bien sûr, et lui dit, « Vois, ton péché est ôté, tes lèvres ont été purifiées. » Alors, à la suite de cette action de pardon, de purification qui vient de la part du cœur de Dieu, qui vient de la part aussi de l'autel où le sacrifice a été manifesté. Comme vous avez devant vous ici, je le répète, une effigie de l'autel des holocaustes, eh bien, de même, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, a donné sa vie sur cet autel. Et à cause du feu qui sort de cet autel, à cause de la sainteté de ce sacrifice, où Christ est venu sur une croix, comme celle que vous avez là en effigie, mais il n'y a plus personne dessus parce qu'il est ressuscité. Je réponds là à une question qui m'a été posée hier. Et donc, dans une visite, et donc, il y a une réalité. Christ est mort pour nos péchés. Il a payé le prix. Et maintenant, la conséquence du fait de ce sacrifice avec le feu qui était là, comme le feu qui consume le pécheur, qui consume le coupable, Christ a porté tout cela en lui. Il a été fait malédiction pour nous. Il est rentré dans le jugement de Dieu. Et c'est pourquoi il s'est écrié sur la croix, « Eloi, Eloi !» Eloi, c'est Dieu, Eloi est possessif, « Mon Dieu, mon Dieu !» Ne pouvez plus dire papa ou père. Hein? Abba, ça signifie papa. Et père, c'est un texte des Écritures qui nous montre comment celui qui est réconcilié avec Dieu peut appeler désormais Dieu son père, papa. C'est merveilleux. Mais là, sur la croix, Jésus ne pouvait plus dire cela, car il incarnait l'homme pécheur. Il s'est chargé de nos péchés. Il a pris notre malédiction sur lui. Il a pris notre corps de péché. Il a pris nos maladies. Il s'en est chargé et il a été crucifié. Il ne pouvait plus bouger, ni pied ni main. Et tout a été offert en sacrifice pour que je sois sauvé. À ma place, il a porté ma condamnation. Alors il a pu dire « Mon Dieu » et non plus « Mon Père ». Parce que Dieu est le Dieu de tous les hommes, même de ceux qui viendront en jugement. Car il est une réalité, le salaire du péché, c'est la mort et la mort éternelle. Il a pris ma place. Et là, il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et dans le texte hébreu, une version en particulier dit ceci, « Regarde à quel état de bassesse tu m'as réduit. » Lui qui, de toute éternité, était dans l'unité parfaite, pur esprit avec Dieu, la plénitude. Il était Dieu lui-même. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et dans cette unité spirituelle, il n'y a aucune division entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce n'est seulement qu'à partir de la création, puis après, lorsque par Marie, le Fils éternel de Dieu est devenu le Fils de l'homme, il s'est fait chair. La parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il est venu plein de grâce, de vérité. Pourquoi faire ? Nous révéler le Père. Ainsi, il est le héros qui sauve. Il est notre Jonathan ou Yéonathan, c'est-à-dire le salut de Dieu. Il est donc Jésus. Maintenant, il y a un autre homme qui est là, cité. C'est Shaoul, ou Saül, comme vous voulez. Et Shaoul signifie celui qui est demandé, celui que l'homme a voulu, celui que le peuple d'Israël a voulu. Israël a dit, nous ne voulons plus marcher selon les lois de Dieu, il nous faut devant nous un roi, un chef, comme les nations, qui marche à notre tête, qui sort à notre tête et qui revient à notre tête, dans les combats. Bon, vous voulez un roi selon le cœur de l'homme ? Eh bien, je vais vous en donner un. Mais vous allez voir tout ce qu'il va faire. C'est vrai qu'au début, Saül a essayé de marcher, et il a marché pendant un temps dans les voies de Dieu. Et puis l'orgueil a pris son cœur. Eh bien, ce Saül, c'est l'image de nous tous, qui va prendre la place de la volonté de Dieu, qui va imposer sa propre volonté. Je n'entre pas dans tous les détails. Et le résultat de sa mauvaise gestion, c'est qu'il s'est lui-même découragé et qu'il a découragé tout le peuple qui était avec lui. Et il était là, sous le grenadier de Migron, en attendant quoi ? Ben, il ne savait pas. Les uns ou les autres, lorsque Dieu ne conduit pas notre vie, nous sommes, dit l'Écriture, errants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par les ruses et les séductions des choses du monde. Et qui de nous pourrait dire cet après-midi, je n'ai jamais été trompé ? Je ne me suis jamais trompé. Non, nous avons tous péché, nous nous sommes tous trompés et nous avons tous besoin de réaliser un sauveur, de prendre un sauveur, de pouvoir suivre un sauveur. Et donc Saül était là avec 600 hommes. 6, c'est le chiffre de l'homme, c'est-à-dire ce que peut faire l'homme. Et 100, c'est le nombre de la puissance. Ah bon ? La puissance de l'homme. Il était là, lui, avec sa lance, bien campé, assis, peut-être sur un rocher, sous le grenadier de Migron, ou peut-être sur un trône. Et il avait 600 hommes autour de lui, armés, alors que tout le reste du peuple était complètement désarmé et avait dû même faire alliance avec les Philistins pour pouvoir forger les instruments agricoles. Alors, nous sommes un peu semblables à cette réalité. Nous avons entendu parler de ce que Dieu a fait. Les uns ou les autres, nous avons été instruits plus ou moins dans les choses qui concernent Dieu. Qui parmi nous n'a jamais entendu parler de Dieu, voire de Jésus-Christ ? C'est rare que quelques-uns n'aient jamais entendu. Ça arrive, mais c'est rare. Et donc, on peut se dire, même si autrefois, dans notre enfance, nous avons marché selon certaines conceptions dites chrétiennes, eh bien, qu'aujourd'hui, ce que nous vivons dans notre quotidien est plutôt morose. C'est comme le temps que nous vivons, pluie, brouillard, froid, vent, et nous nous disons, mais est-ce cela la vie ? Est-ce que c'est cela vivre ? Eh bien, le Seigneur nous dit non. Et si vous voulez réagir, il y a une autre possibilité de gloire, de puissance, de transformation. Et c'est pourquoi l'Écriture nous dit, Jonathan étant le symbole de Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ, de Corinthiens 5, 17, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles et tout cela vient de nous ? Non, de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Alors, le but, disons, de cette comparaison entre Jonathan et Jésus-Christ, entre Saül et notre propre position, c'est pour nous interpeller et dire, y a-t-il quelque chose à faire ? Eh bien, oui. Parce qu'au verset 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme au moyen d'un grand nombre. » Dieu n'a pas besoin de toutes les capacités humaines. Il est bien assez grand pour faire son œuvre. Et il l'a accompli dans celui qui est venu doux et humble de cœur. Celui qui a été comme un rejeton, qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais c'est merveilleux. Et pourtant, c'était un petit nombre, si l'on peut dire, une petite force, apparemment pour les hommes, mais c'était la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comme reprendra plus tard Paul, L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Crois-tu cet après-midi que Jésus est le Fils de Dieu? Crois-tu qu'il a été fait homme pour venir prendre ta place dans le châtiment de Dieu, effacer tes péchés, te justifier? Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Et cet après-midi, quiconque croit au Seigneur Jésus a la possibilité de commencer une vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, il y a une position à prendre. Et Jonathan va stimuler celui qui portait ses armes. Vous connaissez son nom? Mettez votre nom à la place. Parce que dans tous les cas de l'écriture, où le nom de la personne n'est pas cité, c'est parce que le lecteur est appelé à se mettre à la place de ce un tel ou de celui qui portait ses armes. Or, le Seigneur a tout accompli et il nous a équipés. Et l'Écriture nous dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a équipés. Je ne vais pas lire le texte parce que le temps passe, mais dans Éphésiens 6, il y a toutes les armes de Dieu que nous avons reçues en Jésus-Christ, par la foi, pour pouvoir être des vainqueurs. Pourquoi ? Parce que Christ est vainqueur. Alors, viens ! Voilà ce que Jonathan va dire à ce jeune homme, donc à moi, donc à toi peut-être cet après-midi. Viens et, je vais dire en résumé, voyons nos ennemis en face. Présentons-nous en face. Regardons-les bien droit dans les yeux et regardons quelle est leur réaction. Fantastique ? Parce que le plus souvent, ce que nous faisons, c'est de nous voiler la face. Lorsque nous avons des difficultés, nous sommes là, oh, on essaye de fuir ou de se protéger. Et le Seigneur nous dit non, je t'ai donné la victoire. Regarde-le bien en face, ton ennemi, et dis-lui maintenant au nom de Jésus, tu ne domineras plus sur ma vie, c'en est fini pour toi. Car l'Épître aux Colossiens nous dit que Christ, à la croix du calvaire, a vaincu les puissances de ténèbres. Il les a livrées en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Ce n'est pas un simple combat, c'est un triomphe. Et on donne le triomphe à un général romain lorsqu'il a fini sa campagne victorieusement avec toutes les batailles qu'il pouvait y avoir. Tu as des batailles dans ta vie. Tu as des éléments qui te brisent. Tu as des choses qui te font mal tous les jours et tu pleures lorsqu'on ne te voit pas. Ah, peut-être devant les autres, il y a un grand sourire, on est enjoué, voilà, tout va bien, tout va bien. Oui, mais quand tu te retrouves tout seul, assis sur le bord de ton lit, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Eh bien, le Seigneur voit tes pleurs et il veut changer tout cela. Il veut véritablement te donner sa victoire. Gloire à Dieu, parce que tout a été accompli à la croix du calvaire. Et donc, on regarde l'ennemi bien en face. Et bien sûr, il y a des moments où il faut avoir des directions divines. Alors, en voyant les choses bien en face, Jonathan va donner un signe. Il va poser, comme on dirait dans un autre endroit, il va poser une toison. Et s'ils nous disent « Montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains ». Mais s'ils nous disent « Attendez que nous venions vers vous », alors nous n'irons pas, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons des problèmes dans nos vies où Dieu nous invite à regarder ces problèmes en face pour les vaincre en son nom. Je répète, pour les vaincre en son nom. Mais si nous attendons que les problèmes nous envahissent, qu'ils viennent vers nous, qu'ils s'installent dans l'Église, qu'ils s'installent dans nos vies, désolé, nous sommes là perdus. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais si au nom du Seigneur, et comme là c'est l'Éternel, il le cite, nous allons pour dire nous aurons la victoire dans le nom du Seigneur, alors la victoire nous est acquise parce que c'est la victoire de la foi. Et la marche chrétienne, la marche avec Dieu, c'est une marche de foi et de victoire par la foi. Oh, il y aura bien sûr des moments où nous allons mal prendre les choses. Nous allons nous révolter peut-être. nous allons être dans l'incompréhension. Et là, nous allons dire, je suis vaincu. Oui, tu es vaincu. Tu as perdu une bataille, mais tu n'as pas perdu la guerre. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas, pour certains. Et donc, il y a une réalité. C'est que le Seigneur, lui, a remporté sa victoire, son triomphe, après toutes les victoires, et il nous les donne. Et l'Épître aux Éphésiens nous dit qu'il nous fait monter derrière lui dans son char triomphal, alors que ses ennemis sont tirés derrière lui, enchaînés derrière le char triomphal. Christ a vaincu les puissances de ténèbres. Il les a livrées en spectacle à la croix. Il a triomphé d'elles par la croix. Et aujourd'hui, celui qui croit au Seigneur Jésus a la victoire dans sa vie. Mon ami, est-ce que tu veux cette victoire ? Alors nous voyons comment Jonathan est monté en s'aidant des mains et des pieds, et on peut dire que Christ lui seul est monté aussi sur la croix. Ses mains et ses pieds ont été cloués. Il y a eu un combat terrible, et il a remporté la victoire sur le péché, les ténèbres, le monde, la chair et la mort, la maladie et la mort. Il a remporté une pleine victoire. Alors, celui qui portait ses armes le suivait. Remarquez que Jonathan n'avait pas d'armes. C'est à main nue qu'il saisissait les premiers qui tombaient sous sa main au-dessus, sur le plateau, après avoir escaladé la falaise. Et le premier philistin qui s'est présenté, il lui a saisi le pied, la cheville, il a tiré, il l'a fait tomber. Et au fur et à mesure, quelqu'un derrière, celui qui portait ses armes, donnait la mort. Qu'est-ce à dire ? Le Seigneur nous a donné ses armes, des armes efficaces, de foi, pour que nous soyons les collaborateurs de sa victoire. Et ces armes, par la prière, par la parole de Dieu, par les promesses de Dieu, que nous confessons, nous mettent les ennemis hors d'état de nuire. Amen. Mais c'est la vérité. Seulement, qu'est-ce qu'il faut ? Quand l'ennemi a été seulement mis KO par une action extérieure, mais sans armes, Jonathan devait être costaud quand même. Hein ? Mais il fallait que celui qui portait ses armes le suive, je dirais, pas à pas, sans laisser à l'ennemi, qui n'était pas mort, il était juste un petit peu mis KO et terrassé, sans laisser à l'ennemi le temps de se relever. Si nous voulons voir la victoire de Jésus, marchons immédiatement derrière lui. Jésus dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. » Donc, il ne s'agit pas de rester loin, dans la pénombre, et encore moins dans les ténèbres. Suivons le Seigneur, et nous allons voir son œuvre se réaliser dans nos vies. Et le résultat de tout cela, je résume seulement, c'est que ceux qui étaient découragés ont repris courage. Ceux qui étaient là dans la religiosité vaine, comme Saül a fait venir les sacrificateurs pour voir quelle est la volonté de Dieu, est-ce qu'on doit faire ceci, est-ce qu'on ne doit pas faire cela. Et non, la bataille, elle était là, et d'un seul coup, il a dit, alors, un sacrificateur, pousse-toi de là, on y va. Ah, voilà une bonne résolution. Mais depuis des mois, ils étaient là, assis, sans rien faire. Et l'ennemi régnait sur tout le peuple. Alors aujourd'hui, le peuple de Dieu est en face de problèmes énormes et qui vont augmenter. Y aura-t-il des porteurs d'armes de Jonathan ? Y aura-t-il parmi nous des hommes et des femmes qui vont dire, comme cet homme a dit à Jonathan, et je veux insister maintenant sur cette parole que je n'ai pas lue tout à l'heure, « Me voici avec toi. » Déjà, il faut être avec. « Prêt à te suivre. » Il faut l'avoir décidé. « Fais tout ce que tu as dans ton cœur. N'écoute que ton sentiment. » Quand on dit ça au Seigneur, « Oh, ça c'est super. » Ah, il se réjouit. dit « Voilà mon fils, digne de moi. Voilà ma fille, digne de moi. Je vais pouvoir travailler avec eux, être collaborateur de Dieu. » C'est cela être chrétien, mes amis. Ce n'est pas avoir un bout de religion en bandoulière sur le côté où de temps en temps on va dans un lieu de culte. Et le reste, on fait ce qu'on veut. Non, c'est toute notre vie qui appartient au Seigneur et qui permet ainsi de l'aimer, de le suivre, pas à pas. Et la victoire a été énorme. Et ceux-mêmes qui étaient découragés parmi le peuple aussi, qui s'étaient cachés dans les rochers, qui étaient même mélangés au milieu des Philistins parce qu'ils avaient pactisé avec eux en se disant « Mais ils sont trop forts pour nous, on ne va jamais y arriver, donc il faut vivre avec !» le monde qui nous attire facilement avec tous ces discours, ces séductions. « Eh bien, mais il faut faire avec, qu'est-ce que vous voulez, c'est l'air du temps, c'est comme ça, on n'y peut rien, si tu peux quelque chose. » Réagis. Le Seigneur a vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il l'a vaincu. Alors, est-ce que nous allons croire qu'en lui, nous sommes vainqueurs? Notre héros s'est levé. Au milieu de son peuple, va-t-il pouvoir se lever aujourd'hui au milieu de nous? Il est au milieu de son peuple, dit l'Écriture dans Sophonie, comme un héros qui sauve. Aujourd'hui, Jésus, le Fils éternel de Dieu, fils de Marie selon la chair, venu révéler le Père, venu manifester ce qu'est un homme parfait dans le plan de Dieu, est venu manifester l'amour de Dieu dans ce salut extraordinaire qu'il a réalisé pour nous à la croix, eh bien, il s'est levé, lui. Veux-tu te lever derrière lui? Veux-tu dire non à toutes les sollicitations de ta chair, du monde, du péché et des puissances de ténèbres? Hors de moi! Je suis mon Seigneur. Et je lui ai dit, et j'espère que vous en direz autant, fais tout ce que tu as dans ton cœur, tes desseins bienveillants, toutes les choses que tu as prévues dans ta préscience, pour la victoire de tes enfants, fais tout ce que tu as dans ton cœur. N'écoute que ton conseil, ta volonté. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Me voici. Est-ce que quelqu'un va dire cet après-midi, me voici? Est-ce que quelqu'un va réagir par rapport à la négation continuelle, tout ce que l'on entend dans les médias, tout est négatif. Qui va dire « Je suis plus que vainqueur » par celui qui me fortifie, parce que c'est ce que dit l'Écriture. Qui va se lever comme un héros qui sauve? Alors, quand Dieu a dit ça à Gédéon, « Vaillant héros !» Gédéon a dit « Mais moi, vaillant héros ? Non, mais tu m'as regardé. Tu vois pas qui je suis ? Si, si, je connais qui tu es. Mais justement, va avec cette force que tu as dans ton cœur, parce que tu es prêt à saisir les choses que Dieu met entre tes mains. Va avec la force que tu as. Y a-t-il des vaillants héros au milieu? Des hommes, des femmes? Dans le nom de Jésus? Puissiez-vous l'être pour prendre une position radicale par rapport à tout ce qui a dominé votre vie jusqu'à maintenant et soyez vainqueurs dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Merci pour ta grâce, notre Père, manifestée en ton Fils Jésus-Christ, qui sur la croix a porté toute notre condamnation, tous nos péchés, toute notre misère, toute notre humanité, toutes nos infirmités. Il s'en est chargé et il a supporté le juste jugement de Dieu qui devait tomber sur les coupables que nous sommes. Il a pris notre place. Il a été notre substitut. Il est notre avocat aussi auprès du Père. Et je te prie, Père, que dans cet auditoire, cet après-midi, plusieurs puissent être comme ce jeune homme, cet écuyer qui portait les armes de Jonathan pour pouvoir dire « Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux rentrer dans ta volonté. Tu as vaincu tout le mal, toutes les puissances mauvaises, tu as vaincu le péché, tu as vaincu ma chair, tu as vaincu le monde. Eh bien, Seigneur, je veux marcher avec toi, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Peut-être quelqu'un dira-t-il « Eh bien, Seigneur, je veux te suivre maintenant, je veux marcher avec toi. » Y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire cela dans son cœur et qui simplement voudrait lever sa main pour dire « Eh bien, dans mon cœur, je fais cette démarche et je veux aller à la suite de mon Sauveur et du Seigneur de ma vie. » Alléluia ! S'il y a quelqu'un, levez la main, oui, voilà, oui, 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 le Seigneur vous voit. Bien, je ne veux pas dire oui à chaque fois, il y a un bon nombre. Alors, vous allez vous lever à votre place tout simplement, je ne vais pas vous faire déranger. Et nous allons invoquer le nom du Seigneur pour que cette décision que vous venez de prendre dans votre cœur devienne un pacte d'alliance avec le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre vie, celui qui vous aime d'un amour inaltérable, incommensurable, jusqu'à donner sa vie dans les conditions les plus ignobles pour prendre ma place, ta place. Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés, parce que tu les aimes. Et ta vie a été livrée, afin que la multitude des péchés soit effacée, certes, mais aussi pour qu'une nouvelle alliance soit contractée dans ces cœurs, qui veulent se lever pour toi, marcher derrière toi, à ta lumière, et goûter les grâces que tu as préparées d'avance. Et les victoires dont tu les assures par ta victoire sur la mort dans une résurrection parfaite. Merci parce que tu es à la droite du trône de Dieu. Et là, tu intercèdes pour chacun. Et maintenant, tu intercèdes pour chacune de ces âmes. Père, que personne ne néglige un si grand salut, une si grande opportunité, afin de rester en arrière, mais plutôt que chacun saisisse la grâce qui est dans le nom et la personne de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.